Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast francophone sur la Fantasy NFL. On est en direct mardi 12 septembre après week 1 avec Aptin et Franz. Comment ça va les gars?
Bonjour, bonjour.
Salut Marc, salut à tous et
t'as Dez
J'ai
et
double
qui
Dez.
Dez et double Dez, ok.
Dez bonnet, Dez casquette, je suis en portant.
Week 1, toujours son lot de surprises, son lot de blessures également, et plein de choses à raconter. Et je crois que, enfin, on disait dans notre chat interne parfois, est-ce qu'on devient amnésique et que chaque week 1 c'est le bordel, ou est-ce que celle-ci était particulièrement incroyable en termes de surprises et de résultats? On va en débattre aujourd'hui. On va parler des résultats, des tops, des flops, des blessures, des mecs qui se sont plantés, des mecs qui nous ont fait plaisir, des gars qui ont confirmé ce qu'on disait d'eux pendant l'été, et puis ceux qui ont fait exactement l'inverse de ce qu'on pensait. Et ensuite, on regardera un peu le waiver, qu'est-ce qu'il y a dessus. Le waiver week 1, c'est toujours le plus intéressant. On débattra un peu la stratégie pour ceux qui jouent avec les enchères. Quelles sont vos stratégies pour dépenser si tôt dans la saison? Et pour finir, on regardera week 2. C'est un peu tôt encore, mais on regardera un peu les match-up, les forces en présence, un petit start and sit rapide. Et on vous parlera du programme à venir pour le reste de la semaine. Est-ce que, avant même de plonger dans les résultats, votre première impression en deux, trois mots, Aptin, on commence avec toi sur week 1?
Épuisant. J'ai l'impression de sortir deux, trois jours d'apnée, franchement, c'était tu quittais le chat peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et tu revenais, il y avait 100 messages qui avaient été postés. Donc, moi, perso, je n'ai pas tout lu. Parce qu'au final, je pense qu'on disait tous à peu près la même chose. Mais très content, mais à la fois très, très triste de certaines choses qui sont passées pendant ce week-end.
Ouais, et France?
Un peu mixed feeling, comme on dit. L'excitation d'arriver à la week 1, ça arrive. Et alors là, on enchaîne les trucs de dingue. Après, on a eu quelques grands matchs quand même. Un Miami Chargers absolument affolant. C'est le match à 40 mais des blessures à gogo. Et pour tous les late QB drafters qui ont pris Rodgers tour 9 à la draft, pour les ligues redraft, et j'en fais partie, j'ai du mal à m'asseoir sur ma chaise.
Ouais, j'en ai compliqué aujourd'hui avec potentiellement, probablement même la fin de la carrière de Rodgers. Je suis pas sûr qu'on le reverra sur un terrain, mais même si rien n'est impossible.
Je sais pas si vous avez vu l'image, mais on voit le tendon péter à travers la chaussette. C'est horrible à voir.
Ouais. J'adore parce qu'avec les tendons d'Achille, il y en a eu deux là ce week-end. Tendon d'Achille, j'ai jamais eu, heureusement, mais d'après ce que j'ai compris, tu le sais tout de suite. Et les mecs sont, ouais, on craint un tendon d'Achille. Non, tu sais, t'attends l'IRM, mais tu le sais. Ok, on va regarder les résultats de la semaine, du coup. Et à part le fait que les Panthers, les Giants et les Steelers ont tous les trois perdu, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà.
En fait, après les losers de la team, t'as dit, allez les gars, tous ensemble.
Exactement. Ok. Exactement, on aurait pu inviter Nico aussi, mais en tout cas, Lucho et Alexandre Grosjean, on est à deux doigts de les bloquer. Droissard, j'en parle même pas, après son match Miami Chargers, même s'il n'était pas content de sa défense.
Content. C'est une question qu'on doit se poser.
C'est clair, c'est clair. Aptin, quels sont un peu les temps forts, les performances que tu as notées, et je te laisse un peu lead le sujet sur week 1. Dis-nous ce que tu en as pensé, ce que tu veux savoir, ce qui est important. Alors, ce qu'on retient,
on va essayer, du coup on va pas parler de tous les matchs, parce que franchement, si vous voulez qu'on parle des cards commanders, je vous laisse la main, parce que franchement c'est abyssal. Commencer par en gigatop, je trouve que c'est le match Dolphins Chargers. On attendait vraiment un match comme ça en week 1, et c'est ce qu'on a eu. Les deux équipes jouaient super bien, ça s'est fini sur la fin. Donc moi, en flop, en top, je mets le match en entier, mais surtout peut-être Tua et Tyreek. Tyreek, on savait qu'il allait faire une très bonne saison. Là, elle envoie plus de 200 yards direct, c'est assez fou. Il n'y a toujours aucune défense qui à défendre dessus. J'ai vraiment l'impression que quand une balle est pour Tyreek ou un système est fait pour Tyreek, c'est un gros gain. Tua joue très bien. Donc au final, je vais mettre peut-être en top le match et surtout Tua et Tyreek.
Ouais, et j'ai vu une stat déjà l'année dernière quand Tua avait fait des bons matchs. C'était un des meilleurs passeurs profonds en termes de nombre de tentatives et pourcentage de réussite. Et là, cette semaine, bah, direct, hein, 15 tentatives de plus de 15 yards avec un pourcentage de réussite de genre 70%, un truc comme ça. C'est sûr que là, ouais, la connexion Tua Hill fonctionne à merveille.
C'était très impressionnant à voir. Alors, on prie quand même pour que la santé puisse continuer pour Tua Tagovailoa parce que le voir dans cette équipe, c'est quand même un vrai kiff.
Ouais. Là, l'avantage, c'est qu'il y avait très peu de pression de la part de la défense des Chargers. Je crois qu'ils l'ont quasiment jamais atteint, donc on n'a pas vu s'il avait appris à tomber correctement ou pas. Mais ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair.
Je continue. Après, c'est mes top à moi. Vous pouvez compléter, mais moi, je mets les Packers, enfin l'attaque aérienne des Packers, parce que c'est une équipe que j'attendais de voir, parce qu'au final, tu passes d'un certain temps avec Aaron Rodgers, et du coup, je voulais voir en fait ce que Jordan Love faisait. J'étais agréablement surpris. Après, on sait tous que les Packers ont une très grosse défense, ils ont mis quand même pas mal de sous en défense, mais je trouve que c'était très correct, très propre, et enfin pour un QB qui est pour moi, on va dire un peu QB un peu rookie parce qu'il a pas vu beaucoup de snaps dans des matchs, on va dire dans des matchs réels. J'ai trouvé très bon et enfin on a tendance à oublier que les Bears ça reste une bonne défense et il était plus que correct. Donc sur ça, thumbs up et surtout qu'il n'avait pas peut-être son receveur numéro 1 avec lui sur ce match.
Ouais, très propre, 3 touchdowns, pas d'interception, match solide. Côté, si on reste que sur ce match-là, côté Bears.
Alors là, j'ai que du flop.
C'est moi qui ai enlevé France. On a perdu, ouais, côté Bears, des flops, notamment DJ Moore, que j'ai pas mis dans la liste, mais qui était en, comment dire, mention honorable dans les flops, si on peut dire
ouais.
Ça.
Ouais, clairement. En fait, le problème, c'est que quand tu regardais le match, moi, je crois que j'avais regardé, peut-être si j'avais vu par rapport à la red zone, mais en fait, ils avaient montré deux grosses actions qu'il avait fait, en tout cas deux catchs qu'il avait fait où la balle avançait bien. Et tu dis, ok, bah en fait, ça reste un peu dans la lignée de la pré-saison. Ils vont le faire jouer, ils l'ont payé cher. Il y a quelque chose à faire, ils ne l'ont pas ramené pour rien. Et en fait, c'était tout. Tu ne l'as plus vu du red zone, il n'a plus touché la balle. Et tu dis, ok, mais en fait, Justin Fields, on attend quand même cette année, parce que je pense qu'il a été pris peut-être top 6 sur toutes les drafts en QB. Tu attends beaucoup de lui. Par contre, il ne s'est toujours pas transformé en vrai passeur. Et moi, c'est plus le play calling qui me dérange de plus en plus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer. En l'espace de 9 mois et peut-être c'est même pire qu'avant parce qu'au final tu devais un peu t'as pas beaucoup de tape du joueur pour voir exactement ce qu'il pouvait faire, mais là en fait les Packers ils se sont dit on a des tapes, on sait où il a pris à lancer et on va devoir revoir le plan de jeu, ou c'est un peu le même et là on va l'étouffer, c'est ce qui s'est passé. Donc flop, toute l'attaque aérienne des Bears, et j'ai vu un petit clip de Claypool horrible où il n'y a aucun effort qui est donné, etc. Donc vraiment toute l'attaque aérienne flop des Bears.
Ouais, et au sol,
le truc c'est que
monstre à trois têtes. Pardon, vas-y France.
Ouais, non, je voulais juste simplement rajouter que le problème, c'est que DJ Moore est venu pour ajouter justement de la profondeur dans l'attaque et de la et c'est sa force. Et le problème, c'est que s'il a un quarterback qui n'arrive pas à envoyer à plus de 20 yards, eh ben on ne le verra pas, DJ Moore. Et ça, ça va être une vraie question pour la semaine, la week 2. Et je spoil un petit peu le sujet d'après. Mais contre les Bucks, s'ils n'y arrivent pas là, bah là, on pourra vraiment s'inquiéter. Encore contre les Packers, peut-être DJ Moore, il est pris par Jair Alexander.
Pour une fois, c'est pas ma connexion qui déconne.
Ah oui, en plus, c'est un vrai problème. Ok, désolé, Franck, du coup, on va avancer parce que ton micro déconne un peu.
Ouais, on va avancer. Justin Fields, il process. Ah, mais tu vois, c'est pas moi qui. C'est lui qui s'en va. Ouais. Justin Fields process à peu près à la vitesse du Wi-Fi de France. J'ai bien aimé. Je sais pas si tu voulais en. Tu veux enchaîner ou tu veux que je t'en donne
un peu. Non, vas-y. Ah, non. Moi, c'est démocratie ici. Hein.
Ouais, bah. Ça me fait mal de le dire. Non, mais ça me fait pas mal de le dire parce qu'en plus, c'était une de nos prédictions de l'été. Brandon Ayuk, excellent. 8 sur 8 à la réception, 129 yards et 2 touchdowns avec Brock Purdy qui continue de confirmer hein, malgré sa blessure, etc. Enfin, c'est clairement le numéro 1 dans cette offense, il fait exactement ce qu'on veut de lui. Et ils ont picked apart un peu la défense des Steelers, qui eux étaient très décevants également offensivement. Et on en parlera tout à l'heure, mais... Il y aura, au niveau des running backs, Aptin, je voulais avoir un peu ton avis. Au niveau des running backs, moi, j'étais assez high sur Jalen Warren. Il a fait un peu débat pendant l'été. Est-ce que c'était l'année dernière? Est-ce que c'était à cause de Najee Harris qui avait un problème au pied, etc. Est-ce qu'il sera juste utilisé à la passe, etc. Mais là, déjà, ils n'ont quasiment pas couru du tout le match. Je crois qu'il y a 6 carries pour Harris et 3 pour Warren. Donc, difficile d'établir un truc. Mais effectivement, Warren est utilisé à la passe et il a l'air... presque un peu comme Pollard et Zeke l'année dernière. Quand tu les vois jouer, tu te dis, ah bah tiens, voilà un peu d'énergie. Tu es d'accord avec ça?
Je suis d'accord avec ça. Après, je pense qu'on n'est pas encore à Pollard Zeke. C'est vrai qu'au final, il apporte quelque chose de différent et c'est plus peut-être visuellement qu'on a l'impression que ça joue mieux. Après, je pense que là, c'est plus le match qui a fait que en fait, Harris n'était pas utilisable parce qu'il fallait avancer rapidement, etc. Donc, ce n'est pas le meilleur pass catcher qu'on avait. Et peut-être aussi parce qu'on sait qu'il peut être quand même un peu blessé, donc pas essayer de le cramer sur le match. C'est ce qui s'est passé avec Pat Freiermuth qui était sorti. Je crois qu'il s'était pris un coup dans le torse. Donc, au final, c'était un peu un match où je crois qu'ils se sont dit, on ne va pas cramer nos mecs des deux côtés. Hein, parce que tu vois, Kittle, il n'a presque rien fait et ça a bénéficié à Ayuk. Donc je pense que c'était un match un peu de reprise et vu que la messe était dite assez rapidement, le but c'était pas de forcer sur des joueurs dans Najee Harris. Après moi j'ai jamais été high sur Harris. Je pense que ça sera pas une équipe qui va bien courir la balle, mais pour l'instant je vois pas en fait encore Jalen Warren au-dessus d'Harris ou même startable dans des ligues super deep.
Moi j'ai été high sur Harris les 4 premiers mois de sa carrière, mais Warren, je mettrais quand même un tout petit bémol. Oui, il a eu 6 targets pour 12. Bon, c'est pas non plus incroyable. Non, ce qui est inquiétant avec les Steelers, c'est que tu sais pas qui startait maintenant. Hein. Alors, est-ce que c'est Kenny Pickett qui est un problème? Ou est-ce que ton meilleur receveur en week 1, c'est Allen Robinson? Marc, on a une petite pensée pour toi, bien sûr. Mais c'est inquiétant, à part Freiermuth, parce qu'évidemment, les tight ends, c'est une situation où quand tu as Freiermuth, c'est lui qui marque un touchdown. Donc tu te dis, pourvu qu'il reste en bonne santé, et la rigueur, c'est un Steeler que je peux starter. Le reste, il est quand même très compliqué à starter. Et pour San Francisco, en revanche, l'inverse, puisque Brock Purdy, peut-être, finalement, rassure pas mal de monde pour ceux qui l'ont reach un peu ou alors qui ont réussi à l'avoir en QB2. C'est très intéressant pour la suite.
Ouais, les Jags, très très bon premier match. D'ailleurs, Jags et Indianapolis, les deux étaient intéressants. Oui, Calvin Ridley, excellent. Aptin, tu m'as... Non, c'est pas toi qui m'as découpé avec Calvin Ridley. Non, tu l'avais dans la... Je me plante dans les lignes. En tout cas, ouais, Calvin Ridley, gros match. 8 sur 11, 100 yards, un touchdown. Et l'offense des Jags qui tourne plutôt pas mal. Même Travis Etienne. Hein. On avait eu des débats sur Travis Etienne. Pour le moment, écoute, c'est plutôt bien. France, toi qui est NFC... AFC South.
Vous l'aurez entendu ici. Continue à le penser. C'est un league winner. Vous l'avez vu un peu plus tard. League winner carrément. Super. Tank Bigsby. Je pense qu'il y a certainement des moments où même être Désolé, je sais pas si ça passe bien. C'est moi qui te donne, je suis désolé. Et on en reparlera en week 2. Ce sera à surveiller. Ce qui m'inquiète, c'est Chris Kirk. Ouais. Kirk a été drafté assez haut, certainement dans vos ligues. Il a peut-être baissé en ranking. On va le voir par la suite. Mais Zay Jones qui a eu 7 targets contre 3 targets pour Chris Kirk. Peut-être que Chris Kirk a été bien muselé, mais ce sera à surveiller pour la suite.
Non, en fait, c'est parce que Kirk il a joué que dans le slot, pas du tout out wide, et donc ils ont joué apparemment beaucoup de jeux avec deux tight ends et pas de slot receiver, et donc du coup Kirk a été sur le banc la moitié du match. Donc ça, c'est une tendance à suivre pour voir si ça se confirme ou si c'est la défense adverse qui voulait ça. Mais clairement un concern. Côté Indianapolis, Richardson a fait un très bon premier match, le meilleur match parmi les trois rookies pour le moment. Pas de bêtises majeures à part le fait qu'il ne s'est pas ménagé et qu'il est sorti sur une légère blessure à la fin. Ça va être peut-être le risque principal qui va l'empêcher de faire une saison rookie convenable en fantasy. Et par contre, j'ai des commentaires en même temps. Sur Indianapolis, c'est le running game moi qui m'a vachement, vachement déplu parce qu'il a été archi nul. Et que ce soit Deion Jackson, Evan Hull qui en plus s'est blessé, ils ont, je crois qu'au total, ils n'ont rien fait du tout. Et je me demande si avec Jonathan Taylor, il ne gagne pas ce match parce que Deion Jackson, sur un 4th-and-1, il fait un fumble. Et sur une autre action hyper importante, il fait un fumble aussi. Et je pense qu'avec Taylor, ils ne perdent pas ce match. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. On sait que Taylor, apparemment, il peut jouer. Il n'est pas du tout blessé. Enfin, il est capable de passer un physical aujourd'hui s'il le faut. Donc, ils vont recommencer les conversations de trade. Mais ça serait bien de le revoir sur le terrain rapidement. Ouais.
On l'a dit la semaine dernière que Jackson était nul. Moi je crois plus en Hull et je pense que le grand gagnant c'est peut-être Zach Moss s'il revient avant que alors en week 2 ou week 3 Zach Moss peut être hyper intéressant dans cette équipe donc il est disponible dans pas mal de vos line-up dans pas mal de vos ligues pardon ça peut être intéressant de regarder si Zach Moss est disponible.
France, tu te fais chambrer. La connexion de France bug autant que la défense des Panthers sur le touchdown de Bijan.
Ouais. J'ai le genou cassé.
Parlons.
J'essaie de redéler là.
De Bijan et son compère, enfin toute l'équipe d'Atlanta, parce qu'elle est super intéressante sur cette week. Hein. Aptin, qu'est-ce qui s'est passé avec Atlanta?
Alors moi, je vais parler plus des flops. Je vous laisse le parler de Bijan. Plus en termes de flops, les squads aériennes. Franchement, Ryder rincé. Je me suis dit, on va voir un peu ce qu'il donne. Je crois l'une de ses seules completions, il se l'a fait à lui-même parce qu'elle est typée. Franchement, ça m'énerve de gâcher des talents comme celui de Pitts ou maintenant London, de se dire que tu as quand même deux monstres, mais que tu envoies, je crois, je sais pas, ils ont combien de réceptions. Je crois London, un quarterback qui est envoyé vers lui. Pitts n'est pas utilisé. C'est bien d'avoir Bijan, mais bon, c'est même pas lui qui prend les TD à la fin, même si, quand le match était encore équilibré, c'est Bijan qui aidait le back, donc n'allait pas forcément regarder que les scores fantasy. Mais je comprends pas en fait ce qu'ils font avec l'offense, et pour moi, cette offense irait bien même avec Heineke, et surtout pour la fantasy, que ce soit le tight end ou le receveur. Donc ça m'a un peu fait chier parce que je trouve qu'ils ont une bonne équipe. En défense, c'est devenu très solide. J'étais assez étonné de ça. Mais par contre, c'est vraiment, c'est du gâchis, l'offense.
Drake London, je pense que ça peut être intéressant quand même de le buy low. Mais après, ça, c'est débattable. Je doute
le buy low, si tu penses que c'est Heineke qui passe derrière. Mais si c'est Ryder qui passe la saison,
Mais fin de saison dernière, si je ne me trompe pas, Drake London a récupéré des ballons de Reader.
Ouais, c'est ça qui est fou.
Madoffen, ça a changé. Moi, je sais pas, j'arrive pas. Mais, enfin, là, j'ai vu ce qu'il donnait vraiment, en fait, tu vois, enfin, en début de saison, où il faut vraiment les gens font se battre pour gagner des matchs. Pas en fin de saison, quand il y a des équipes qui ont déjà perdu, NFC South, allez, on joue entre nous et on essaie de voir ce qui se passe. Moi, je suis vraiment extrêmement déçu de ce que j'ai vu de Dolphins, ouais. À part le running. Et il y avait une question extrêmement, enfin, super intéressante qui nous avait été posée, c'est de starter les deux running backs d'Atlanta. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant, mais en fait, pour moi, tu ne peux pas te baser sur un mec qui vulture, qui vole les TD d'un autre. Bijan, je pense qu'il apportera toujours quelque chose et garder, stacher toujours à l'écueil, au cas où. Mais je ne pense pas qu'on peut starter les deux persos, à part si vraiment t'en gagnes.
C'est marrant, je ne suis pas... Ça dépend du match-up, je ne suis pas complètement d'accord. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après. Mais si tu as des problèmes dans ton flex, tu peux très bien mettre Algier en flex. Ce sera certainement meilleur que d'autres joueurs. Ça va dépendre après à quelle profondeur est ta ligue.
Ouais. En fait, le truc, c'est quoi qu'il arrive, ça rendra l'équipe fantasy un peu plus stable.
Ouais.
Sauf quand Atlanta joue contre une énorme défense à la course, ce qui est possible. Ouais, ouais. Mais si on part du principe qu'ils ont une bonne attaque à la course et qu'ils font jouer ces deux joueurs-là. Tu peux marquer des points, mais par contre ça t'enlève un peu d'upside parce que les deux sont capés et ouais, c'est faisable. Moi je l'ai fait, ils sont, enfin ils se capent entre eux, je veux dire, mais tu peux pas dire tiens je vais tenter Alger par exemple parce qu'il va avoir la goal line ou des trucs comme ça et vendre Bijan pour avoir un autre gars d'une autre équipe, enfin, mais déjà si t'as les deux, je pense que ça vaut le coup de les starter. Tu vas pas laisser un mec sur un banc juste parce que t'as les deux.
Regardez le touchdown de Bijan. Il court comme un slot.
Ouais.
Et en fait, il est là, il retourne derrière la ligne de scrimmage, ouais. Il retourne derrière son right tackle et il repart complètement vers l'extérieur. Alors Louvou le voit très bien, sauf qu'il se fait découper par un coup de rein absolument extraordinaire. Mais si tu estimes que Bijan va avoir des rôles de slot receiver et qu'Algier va avoir des purs rôles de running back à la course, et ben finalement, starter les deux, c'est pas
si mais bon. Ça, c'est qu'en red zone. C'est pas, enfin, pour moi, j'arrive pas à me dire que c'est une option viable de starter
un mec. Qui... Points, hein.
Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est du boomer bust. Donc, c'est en flex, ouais. Quand on galère de jouer sans boomer bust, je veux bien.
Ouais, ouais, bah, la question, elle se pose aussi pour... C'est assez rare, mais la question peut se jouer sur deux, trois autres backfields, genre celui de Détroit, par exemple. Parce que si tu as Gibbs et Montgomery, bah, techniquement, tu peux faire jouer les deux dans ton équipe. Ça, tout dépend comme d'hab. Hein. Ne pas le faire volontairement. Faites-le si c'est votre meilleure option.
En tout cas, je trouve ça super intéressant. Regardez, ouais. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de questions autour de l'offense fantasy d'Atlanta. Et je trouve que le premier match, en fait, ça a montré que ça va être compliqué d'un point de vue passe. Mais le running game, ça va être. J'attends de voir contre une très grosse défense, un match un peu plus équilibré.
Ouais.
Après, Panther, je te laisse parler France. Moi, je parle pas des équipes des autres.
Ouais, Bryce Young, qu'est-ce qui. Ouais, y a rien à voir. C'était comment le premier match de Bryce Young ?
Moins pire que ce que j'avais imaginé. Finalement, il avait un comportement de patron et il a fait de très bons drives. Après, il a fait des erreurs de jeunesse et puis il n'a pas été complètement aidé non plus. La ligne n'a pas été mauvaise, mais donc c'est prometteur. Mais en fantasy, par contre, évidemment, que pour le moment, ça ne se joue pas. Ou alors, vous avez vraiment une équipe de fous et que vous avez une place dans le banc, sur le banc, vous n'avez pas quoi faire. Non, il n'y a que Hayden Hurst qui peut être intéressant. On en avait parlé la semaine dernière. Il marque un touchdown et je pense que c'est une bonne soupape de sécurité pour Bryce Young. Et Miles Sanders, l'air de rien, même si ça n'a pas été incroyable dans cette week 1, peut aider pas mal de rosters. Et un petit œil sur Chuba Hubbard quand même, au cas où Miles Sanders lui arrive un problème. Il a été particulièrement bon en week 1, bien meilleur que d'habitude.
Ok, moi j'ai encore deux matchs dont je veux parler et un dont je veux pas parler, mais je sais qu'il faut qu'on le fasse. Les Raiders, leaders de leur division, la seule équipe à avoir gagné, Et j'ai trouvé que ça tournait pas trop mal. Mais c'est surtout que j'étais très content de la prestation de Jacoby Meyers, qui pour la première fois de sa carrière marque deux touchdowns, après avoir joué 60 matchs aux Pats et n'avoir jamais fait ça. Malheureusement, il est sorti sur commotion, mais il avait une target share énorme. Donc c'est intéressant de voir Garoppolo regarder dans sa direction et connecter comme ça, parce que ça va libérer aussi Adams. Ça veut dire que l'offense va pas être unidimensionnelle entre Jacobs, Adams et Myers. Ça peut en fantasy être intéressant pour les Raiders. Dans ce match, il y avait aussi les Broncos. Alors déjà sur les Raiders, je ne sais pas si vous avez un point pour rebondir là-dessus. Non.
Non.
Et côté Broncos, qu'est-ce que vous avez pensé du premier match de Sean Payton?
Très déçu. Alors franchement, avec tout ce qu'il avait parlé, je me suis dit qu'il avait peut-être au moins un peu baqué. J'ai rien vu. Franchement, j'ai rien vu. C'était pas agressif comme jeu. Tu as quand même quelques athlètes. Je sais pas. Moi, pour l'instant, là, je suis extrêmement déçu. Et tu perds les Raiders de Jimmy Garoppolo, s'il te plaît. Enfin, les Raiders, c'est vraiment en termes d'effectifs purs, ils sont pas forts. Donc. Pour moi, là, ça devient vraiment un problème de coaching.
Ouais.
Et en fait, c'est peut-être parce qu'il a trop parlé, tu vois. Donc après, quand tu back pas un peu ce que tu dis, bah, ça se voit plus. Et là, enfin, perdre les Raiders de 1 point.
D'un point de vue football pur, je suis d'accord avec Captain. D'un point de vue fantasy, je suis un peu rassuré. Parce que vu l'ADP de certains joueurs des Broncos, finalement, tu peux te retrouver à avoir des joueurs qui étaient pas chers et qui vont te donner des points. Je continue à penser que Russell Wilson pourrait être une bonne pioche à un round 9-10. Et Williams en running back peut être un RB2 intéressant dans les semaines qui arrivent. Je pense vraiment que par rapport à l'ADP, j'ai été un tout petit peu rassuré. J'espère que ça va continuer.
Assez d'accord avec le commentaire qu'il y a eu là de Jérôme. Par contre, j'étais assez surpris du niveau de Garoppolo, et je pense que ça peut être un sleeper cette année. Maintenant, il faut quand même qu'il soit un peu plus. Je trouve quand même qu'il n'y a pas assez de personnes autour de lui, mais je le trouvais très 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 fort dans ses choix.
Ouais, très propre. Très très propre. Vraiment le game manager franchement, on n'est pas complètement surpris. Quand il va bien,
Bon,
il
moi,
joue
le
comme
seul truc,
ça.
je suis totalement d'accord, mais en fait, le seul truc, c'est qu'il a toujours été super bien entouré. Là, il a qu'Adams. Et
Oui.
au final, j'ai trouvé ça quand même très bien, enfin, très bien joué, parce que Mayer, je crois qu'il a fait 2 TD sur sa saison. C'était Patriot, je sais plus, t'es avec qui. Mais je crois que la saison était de 2 TD, et là, premier match, il met 2 TD. Ça n'a pas continué, mais je pense quand même que ça montre que quand tu fais sortir des joueurs qui sortent un peu nulle part, c'est que
Oui.
tu connais ton foot.
Et quand tu vois la liste des joueurs qui ont reçu un ballon, elle est très
Ouais,
courte.
et ça, c'est un peu les grands QB, enfin, je trouve.
Elle est très très courte.
Avant Marc, on passe à ton match des Giants. Moi, je voulais juste parler peut-être de deux flops, parce que
Ouais.
j'attendais aussi très rapidement. C'est l'attaque aérienne des Ravens, les 5 milliards. Enfin, il y a eu tellement de hype autour des Ravens quand tu cales 25 points en galère contre les Texans, surtout que Lamar Jackson a été très mauvais. Alors que moi, pour moi, c'est sûrement le mec qui va finir MVP. Enfin, je voyais une
Mauvais et
saison
même dans
énorme.
l'attitude.
Mauvaise
Il avait l'air
attitude,
pas.
mauvais
Ouais.
choix. C'est moi qui ai fait la faute, sauf que quand tu dis 5 fois d'affilée dans un match, ça fait quand même beaucoup. Odell, moi c'est l'Odell que j'attendais, donc rien. Zay Flowers devient tout d'un coup le meilleur joueur de cette équipe, et il apporte beaucoup, donc tant mieux.
Il est très, 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 très fort.
Par contre, j'ai trouvé ça pas choquant, mais pas loin de dire, attends, en fait, il colle que 25 points en galère à une équipe, l'une des pires équipes de la NFL. Donc enfin, là, l'offense, je ne l'ai pas vu, quoi. Et un peu dans le même, je vais rien vous apprendre, mais l'attaque des Bengals qui s'est
Les tigres.
complètement chié. Tous,
Le
peut-être
plus
chez.
mauvais. Ouais, pardon, non, je disais le plus mauvais match de bureau, 3 jours
Juste
après
après la
avoir
signature, ouais.
signé son contrat.
La fameuse photo de. C'est quoi, Joe Burrow, The Day After He Signed, et tout d'un coup, ils m'ont dit Dalton, je trouvais ça assez marrant. Mais après, non, enfin, là pour moi, c'est. Enfin, je crois qu'ils avaient mal commencé la saison passée, les
Exactement,
Bengals.
j'allais dire, ouais.
Ouais,
C'est pas son
on les avait battus, et je crois que de toute façon, ils avaient mal joué. On sait qu'ils vont bien jouer, et surtout que Cleveland, cette année, c'est pas de la rigolade. Donc là, on l'a bien vu, mais bon, quand même, c'est à suivre, quoi.
Avant les Giants, je réponds juste à deux questions du chat. Où est Mims en l'absence de Jeudi? On se demande aussi. C'est Cortland Sutton qui a récupéré quelques ballons, qui étaient possibles également, mais très déçu de Marvin Mims. Et j'adore évidemment toute la mesure gardée de Zinkou qui nous dit que on a dit que Garoppolo était le king des QB. Oui, bien sûr, on a dit que c'était le numéro 1 des quarterbacks, Garoppolo, bien entendu.
Faut faire gaffe aux quotes, tu sais, les gens qui prennent un petit clip de 10 secondes hors contexte. Moi, j'ai pas envie de parler des Giants ni des Cowboys. Je sais pas s'il y a quelque chose à en retenir. À part la ligne offensive terrible des Giants. Ouais, non, mais sincèrement, je dis ça pour Zinkou parce qu'il voulait en parler, mais c'est pas un match très intéressant niveau fantasy. J'ai trouvé qu'il pleuvait à mort. Au bout de même pas un quart d'heure, c'était plié. À moins que vous ayez quelque chose à dire. Moi, c'est pas parce que je veux pas en parler, c'est parce que je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à retenir. Ok, et les Vikings aussi, assez décevants, qui ont perdu contre Baker Mayfield. Moi, j'étais surtout déçu par leur défense, qui n'a pas réussi à embrouiller Mayfield, alors que on vous avait vendu la défense de Brian Flores comme étant le casse-tête. Mais ça n'a pas été le cas dans ce match, en tout cas. Alors, est-ce que c'est Mayfield qui est revanchard, comme dit Lucho, et qui va faire une bonne saison sur un contrat d'un an, c'est possible. Est-ce que vous achetez Mayfield, là? Si toi, Franz, t'as plus Rodgers, il y a Mayfield sur le waiver, tu mets de l'argent dessus? Tu y crois ou...
Qu'est-ce que tu tortures? Mais tu parles de fantasy ou de foot?
Non, fantasy.
Oui, mais alors peut-être uniquement dans l'optique de streamer. Les Bucks jouent les Bears la semaine prochaine et je me dis, il peut encore refaire la même chose. Désolé, Zinkou, j'avais pas compris ton commentaire. Je croyais que tu te foutais de nous, mais non. J'y vais avec le petit doigt, je clique sur la souris.
Ok. Une question que j'adore là. Quand il pleut sur un terrain, vaut mieux favoriser les attaques ou les défenses en fantasy? J'adore ces questions parce que je suis Monsieur Météo. Tout le monde se fout de ma gueule à partir de novembre-décembre quand je suis en train de faire les bulletins météo. Quand il pleut, ça dépend de la pluie. Mais quand il pleut beaucoup et que c'est mouillé, il faut absolument privilégier les défenses parce que c'est très difficile de mettre en place un jeu aérien. Et en attaque, éventuellement, le seul truc qui peut fonctionner mais qui est dangereux à cause des fumbles, c'est le jeu au sol. Donc oui, il faut absolument, quand il pleut ou qu'il y a beaucoup de vent, un vent violent avec des rafales, privilégier les défenses et tendre à site vos QB et vos receveurs s'il y a beaucoup de vent ou beaucoup de pluie. On parle évidemment d'une tempête, hein, on parle pas d'un petit peu de pluie, un terrain un petit peu humide, mais quand c'est des conditions comme il y a eu à New York ces derniers jours, c'est le cas.
Vérifier les historiques de fumble de vos running backs.
Agreed.
Alexandre me demande entre Mac Jones, Mayfield et Stafford, si les trois sont disponibles sur le waiver et qu'on a Rodgers, est-ce qu'on prend Mac Jones, Mayfield ou Stafford?
Mac Jones.
Jones ou Stafford, mais clairement pas Mayfield. Moi, ça faisait partie de mes tops un peu, Stafford et l'équipe et les Rams un peu de manière générale. En fait, j'avais le top, l'attaque aérienne. Parce qu'il y a un peu deux mecs qui sont sortis nulle part, qui ont fait le taf. Stafford a été très bon, très propre, sans son receveur numéro 1. Et le flop, parce qu'en fait, on ne sait toujours pas ce que Hackers a fait à McVay. Mais bon, ça, j'ai limite pas envie d'en parler parce que ça me saoule un peu. Quoi. Mais du coup, ouais, Stafford ou Mac Jones, que j'ai trouvé très bon. Hein. À un moment, dans le chat, on en parlait. C'est plus dans l'attitude que je le trouve détestable. Pas faire d'efforts, c'était une balle pas ouf qu'il avait donnée. Son receveur, juggle avec et il se fait intercepter, mais en fait il fait pas d'effort, il aurait pu l'arrêter 1000 fois. Mais bon, voilà, je réponds juste.
Ok, on va passer à la suite du programme. Donc on va parler du waiver et des blessures. On a déjà fait un petit peu le tour, je crois, de la plupart des grosses perles. Donc du coup, le waiver, on va parler dans ce cadre. Quelle grosse perf? Il y a une grosse perf dont on n'a pas parlé, donc on va parler dans cette section. Mais. Le waiver, c'est pour deux choses. C'est d'abord, quelles sont les grosses perfs qu'on a vues et est-ce que du coup, on prend le joueur parce que c'est quelque chose qui peut se continuer. Quand il y a une blessure, qui va step up, qui va en profiter et qui on va prendre pour remplacer. Donc juste un récap des blessures de la semaine pour aller rapidement. Donc il y a deux joueurs majeurs qui sont out pour la saison avec une rupture du tendon d'Achille, c'est J.K. Dobbins et Aaron Rodgers. Dans le cas de Dobbins, pour le moment, ils ont fait venir Melvin Gordon de la practice squad et dit qu'ils n'allaient pas ajouter un vétéran. On reste à voir si c'est le cas. Dans le cadre de Rodgers, bah, ils ont fait jouer Zach Wilson qui du coup... et de retour, toujours plus ou moins aussi mauvais, en tout cas sur sa performance contre les Bills, même s'ils ont gagné le match. Et donc la question se pose si eux aussi font venir quelqu'un et qui va jouer le reste de l'année. Les autres blessures sont beaucoup moins graves, mais très embêtantes. Il y a énormément, déjà, il y en a eu plein avant la première semaine, mais des blessures aux ischio-jambiers, l'horreur. Il y a au moins 5 ou 6 receveurs qui en avaient avant la week 1. Et maintenant, il y en a deux qui se sont rajoutés. Diontae Johnson, qui va être out quelques semaines, d'après ce qu'ils ont dit. Deux ou trois, hein, si c'est un claquage. Mais le problème, c'est qu'après des claquages, tu mets un peu de temps à retrouver ton explosivité. Donc, c'est vraiment pas idéal pour Johnson. Et Aaron Jones, qui était le meilleur running back de la semaine, qui s'est aussi fait un claquage sur un de ses touchdowns. Peut-être une à deux semaines, faudra voir, parce que ça avait l'air un petit peu moins grave. Vu qu'il faisait des étirements, les médecins disent ouais, s'il faisait des étirements, c'est que c'est peut-être un peu moins profond. Greg Dulcich, le tight end des Broncos, qui lui s'est fait un problème à la même jambe que l'année dernière, qu'il avait raté des matchs. Donc lui, c'est peut-être plus grave et ça sera peut-être un peu plus de semaines. Voilà, c'est 3-3 différences de disque-jambier. Et rapidement, les autres blessures un petit peu moins importantes, mais Jacoby Meyers en a dit sorti sur commotion. Pat Freiermuth sur une blessure aux côtes. Anthony Richardson sur une blessure au genou. Chris Olave sur une blessure au mollet. Et Kenny Gainwell aux côtes aussi. Mais aucun de ceux-là, pour le moment, n'est particulièrement inquiétant. Il faudra donc suivre les rapports d'entraînement pendant la semaine. Est-ce qu'il y en avait un autre que vous avez noté, peut-être dans la ligne offensive, quelqu'un d'impactant qui pourrait faire, enfin, je ne sais pas, ou en défense.
Moi, j'avais eu plusieurs blessures. Alors, je ne pourrais pas donner les noms, mais je crois qu'il y a eu des Giants.
Andrew Thomas qui est sorti. Ouais.
Il y a eu les Vikings. Ça m'avait un peu plus.
Ah, et Seattle a perdu ses deux tackles, je crois. Et ça va impacter Geno Smith.
Et encore un autre, mais j'ai eu un.
Linderbaum, le centre des Ravens également.
Mm-hmm. Ouais. Bah, les Ravens, dans tous les cas, eux, ils sont maudits. Quoi.
Ouais, un peu, ouais.
Donc, ouais. Voilà, à suivre toutes ces blessures, voir comment ça se passe. Je rappelle justement, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, qu'on a publié des stats sur les dernières années sur les tags questionable et doubtful. En fait, quand c'est questionable, il y a dans trois quarts des cas, pratiquement, le joueur joue. Et quand c'est doubtful, dans 95% des cas, il joue et il ne joue pas. Donc, quand vous voyez doubtful dans votre appli, c'est vraiment que le mec va pas jouer. Ne me dites pas, putain, j'espérais qu'il joue Sunday Night Football. Non, doubtful, c'est presque irresponsable de laisser le mec dans votre line-up. En revanche, questionable, ben, là, du coup, il faut essayer de trier. Et pour trier, la seule solution qu'on a, c'est d'essayer de voir les rapports des reporters locaux, des mecs qui ont des sources dans le club, qui vont dire, ouais, il devrait jouer, il devrait pas jouer, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait dans notre injury report le samedi. Quand on met questionable, doubtful, peut-être que je vais renommer les tags juste pour pas vous embrouiller avec le tag officiel, mais en tout cas voilà. Quand nous on met doubtful sur Twitter, c'est que le gars est questionable, mais que on pense pas qu'il va jouer. Quand il est doubtful officiellement, il y a très très peu de chances qu'il joue. Voilà.
Et Lucho la semaine dernière disait quelque chose de très malin. Quand vous avez un risque. Et qu'un joueur joue tard, donc ça veut dire plutôt soit Sunday Night Football, Monday Night Football, voire même les matchs de 22h20, mettez-les en flex, et comme ça vous pouvez les changer par n'importe quel type d'offense, alors que si vous le mettez en running back ou en wide receiver, bah après vous pouvez remplacer que par un running back et un wide receiver, et ça, c'est plus gênant par rapport à votre banc.
Super important ça dans la construction du line-up. Mettez pas en flex le mec mauvais, mettez en flex le mec qui joue le plus tard.
Exactement.
Aptin, je me rappelle plus le nom de ton
Fuji
compagnon. Fuji.
Fuji comme le mont Fuji. Fuji. Il y a une super Fuji question Il est super. Il y a une bonne question et je voudrais bien y répondre sur, je crois, j'avais vu.
Sur Josh Kelly. Ouais.
Ouais, très, très
Josh Kelly qui était dans les. Vas-y, alors vas-y.
Moi, je pense que ça peut devenir durable. Je pense qu'il faut le mettre. En fait, je pense qu'il faut peut-être attendre une semaine, juste une semaine, voir en gros c'est l'utilisation qu'il va avoir. Parce que si je dis pas de bêtises, c'était Ekeler lui-même qui disait qu'il avait un peu besoin d'aide au running. Et du coup, je pense que ça a été entendu et je pense qu'ils vont essayer de beaucoup plus faire jouer un Joshua Kelly s'il continue à bien jouer.
Oui,
Alors,
et Austin Ekeler est blessé à la cheville. Potentiellement une entorse. Donc si
une
c'est le cas, tu
entorse de
starts
joueur
Kelly, moi je pense,
NFL.
direct.
Ah, direct.
Ouais, si c'est une entorse qui ne peut pas jouer, tu le starts. Sinon,
Alors,
tu le prends et tu l'attends.
sauf que les Titans ont une très bonne défense contre la course, quand même. Mais si Eckler joue et que vous pouvez. Là aussi, hein, je ne serais pas choqué de mettre Eckler en running back numéro 1 et Kelly en flex, par exemple. Tu vois, ça fait partie un petit peu comme. Un peu comme Bijan Algier, bah ça me choquerait pas de mettre Kelly en flex aussi. Mais
Ouais,
attention,
bah
les
c'est ça, mais en fait, il y en
statistiques.
a plusieurs. Il y a Bijan Algier, quelqu'un avait mis dans les commentaires le backfield des Jets, Cook et Breece Hall, celui des Chargers potentiellement. En fait, le truc, c'est si tout le monde se met à jouer en committee, ben, de plus en plus, ça nous embêtait les committees parce qu'il y avait encore une dizaine de running backs qui jouaient en mode bell cow et avec 25 carries par match, etc. Mais s'il y en a vraiment pratiquement plus, et j'ai l'impression que c'est un peu la direction que ça prend. Finalement, les comités deviendront intéressants. Et là, on commencera à regarder des running games en comité et de dire, tiens, Atlanta ou bon, Chicago, c'est différent parce que c'est surtout, déjà, ils en ont trois et en plus, c'est surtout avec le QB. Mais genre, Atlanta, où c'est pas le QB qui court, mais ils font tout pour établir la course et qu'il y en a deux, ouais, il y aura peut-être 4-5 équipes comme ça où on se dira, est-ce qu'on peut investir dans le running game d'une offense et regarder un peu le schedule, regarder leurs trucs et tout ça. Donc ça.
Je crois que l'autre duo que tu cherchais, c'était peut-être Montgomery Gibbs, par exemple, typiquement,
Ouais, c'est ça.
dans les
Montgomery
prochaines
Gibbs.
semaines.
Ouais. Donc ouais, éclair. Josh Kelly. Moi, je pense que c'est surtout à cause de sa petite blessure à la cheville. J'ai pas eu le temps de voir à quel moment il a eu ses carries. Mais c'est vrai qu'il a eu un bon volume, Josh Kelly. Et si c'est à la fin du match, c'est surtout lié, je pense, à la cheville d'Eclair. Eclair, qui a quand même, qui reste le mec à avoir. D'ailleurs, il finit RB1 ou 2 de la semaine. Donc,
Monstrueux.
ouais, grosse perf sur 16 carries. Hein. Très, très efficace.
Puis il reçoit énormément de ballons à
Ouais.
la passe également.
Du coup, sur le waiver, qu'est-ce qu'on a? Ben, Nico nous a concocté une petite liste. Hein, en QB, Jordan Love, Mac Jones, s'ils sont dispo, tout dépend si c'est des formats super flex ou pas. Il n'a pas mis Baker Mayfield. Dommage. Running back, et c'est son choix de la semaine, mais attention parce qu'il a une petite blessure aussi, Kenny Gainwell. Et Gainwell qui était un de mes sleepers préférés, mais le problème c'est que le backfield de Philly, on ne sait jamais trop ce qu'ils vont faire. Ce qui était intéressant, c'est de voir Rashad Penny. Healthy scratch, ça c'était inattendu, en tout cas pour moi. Je pensais qu'il allait se blesser, mais je pensais pas qu'il serait en forme et qu'il jouerait pas.
Ouais, ça c'est dingue. Clairement, il peut se cut de vos équipes. Et Gainwell semble. Enfin, moi, je trouve ça dingue ce qui se passe dans le backfield des Eagles. Alors, c'est la week one, donc on peut pas trop commencer à tirer des plans sur la comète. Mais il y a pas mal quand même d'insiders qui disent que Gainwell est le running back numéro un dans cette équipe. Hein.
Ouais, bah il a
Donc.
starté, il a fait le premier carry du match, il a joué dans les 2 dernières minutes, donc il a fait tout, ouais, tous les trucs logiques. Après, Swift, c'est fait
Le
son
match
premier
était
match,
bizarre.
etc. Ouais.
Le match était très très bizarre aussi à voir quand même. Mais Gainwell est clairement intéressant. Alors Algier hein, dans ce waiver wire, je suis pas certain qu'il soit disponible souvent. Alors j'ai pas vu le pourcentage des ligues sur les
Faudra vérifier la
applications.
source de Nico, hein. C'est pour ça que j'ai. Il faudra vérifier les
Non,
sources de Nico pour
la
s'assurer
question
que.
que j'aurais pour vous, elle est finalement la plus compliquée qu'il y ait sur cette liste, c'est entre Justice Hill et Gus Edwards,
Lequel?
qui vous prenez?
Karim Hunt.
Oh là là, non, mais tu me spoiles tout là, j'avais.
Ah, désolé, désolé.
Oh non! pensais que j'allais
faire un peu. On coupe, on revient.
Je suis désolé. Pour des personnes de live, pas de commentaires. Alors, moi, j'aime beaucoup Zach Ertz.
Moi, je prends Gus Edwards. Mais moi, oui, je pense que tout le monde se dit, tout le monde, personne ne croit à la déclaration en disant il n'y aura pas de vétéran. Je crois que c'est ça l'enseignement.
Vétéran running back à Baltimore, c'est ça?
Ouais. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas en recruter un, mais j'ai l'impression que personne n'y croit.
Mais Franz, il va en parler après. Par contre, pas juste un mot sur Zach Ertz, parce que dans cette équipe, mais dégueulasse, mais vraiment dégueulasse des Cardinals. Je me dis vraiment que Zach Ertz ou même Rondale Moore en flex, en PPR, ils pourraient être intéressants. Parce que c'est les deux seules options de cette équipe. Et à un moment, Dobbs, il va devoir un peu passer. Donc, je pense vraiment que c'est pas beau. Hein, ça va te ramener 8 points dégueulasses. Mais je pense que les deux peuvent être pas mal en PPR. Et en flex, galère. Je ne sais pas si dans vos équipes, il y a un flex entre parenthèses galère, mais vous avez dit.
Flex, je suis en galère.
Ouais, sur les 18 équipes, là où il n'y a plus personne sur le waiver après la draft, il n'y a que des free agents.
Ouais, c'est clair.
Je ne sais pas, franchement, moi, dans les ligues de 12, je regarde un peu le flex, je me dis que s'ils ont bien drafté, franchement, Zach Ertz, ça start. Hein.
Moi, je l'ai drafté.
Ouais, bah surtout, je voulais parler de la position Titan parce que. Les trois dernières années, je militais pour la supprimer et remplacer par un receveur tight end. Et c'est finalement, je suis un peu revenu en arrière je me dis, ah, c'est marrant un tight end. Et puis là, cette semaine, les mecs, ils me sortent la pire semaine pour les tight ends de l'histoire.
Ah ouais, c'était dégueulasse.
J'ai plus mon téléphone. Mais attends, je vais vous donner parce que en plus, j'ai drop Hunter Henry dans une ligue et ce connard finit tight end 1 de la semaine. En n'ayant rien fait d'autre qu'un touchdown. Donc, tu as Hunter Henry, Hayden Hurst, Donald Parham, Blake Bell, je ne sais même pas qui c'est, le joueur de Kansas City, troisième tight end. Ouais. Harrison Bryant, qui ça fait 5 ans que je l'ai dans les dynasties, qui ne fait rien, il finit tight end 5 cette semaine. Hockenson, Engram, Kmet, Freiermuth, etc. Mais il n'y a personne, à part les deux premiers, Henry et Hurst, personne ne dépasse 5 catch et un touchdown, donc personne ne dépasse 10 points, quoi.
Alors, Nimodo, justement, que les deux meilleurs tight ends n'ont pas joué cette semaine non plus. C'est peut-être aussi une explication.
C'est pas faux, mais ça prouve que c'était vraiment les arbres qui cachaient la forêt dans cette position.
Ouais, moi, j'attendais beaucoup d'Aaron Waller là sur ce premier.
On en revient aux Giants.
Je l'attends encore.
Non, mais même des joueurs comme Laporta, Musgrave, on s'est dit, ah tiens, ils ont bien démarré et tout pour des rookies, et puis ils finissent dans le top 10, top 12 là. Mais avec 6 points, 6,4, 6,8, enfin c'est...
Ouais, mais Titan, ça fait pareil. Pour un Titan rookie directement de scorer beaucoup, c'est compliqué. Moi, je trouve Laporta, enfin, et justement, il a apporté un peu ce qu'on attendait pour les personnes qui l'ont drafté. Je pense qu'il va vraiment faire une très belle saison. Donc un rookie Titan qui score beaucoup dans un premier match, en plus, il jouait Kansas, c'est un peu plus compliqué.
Ouais. Juste deux joueurs... Deux joueurs dont il faut parler, tiens d'ailleurs. Ouais, si, ils sont tous les deux marqués. J'ai eu peur. Les Rams, on n'a pas parlé des Rams et j'ai fait exprès pour le garder sur le waiver parce qu'ils ont fait pas exactement ce qu'on attendait d'eux. Et Puka Nacua a eu 15 targets.
15 targets.
Un volume monstrueux pour un rookie. Je crois que c'est un record pour le premier match dans la carrière en NFL d'un joueur. Et c'était un joueur qui, dans les communautés fantasy, avait pas mal de gars en dynastie qui disaient « Ouais, Puka Nacua, gardez-le. » D'ailleurs, Aptin, quand on faisait notre draft, je t'avais dit de le prendre, j'aurais dû fermer ma gueule et le prendre moi.
Non, mais c'est toi, rookie, parce qu'en gros, je me suis dit « Il est chez moi, mais
pourquoi
c'est
qui je l'ai là ?»
Je me suis dit « Mais c'est qui ce mec ?»
Je t'avais dit « Prends ce gars-là. » Et ben putain, j'aurais mieux fait de rien dire parce que tu m'as battu 200 à 100 et j'ai besoin d'aide.
et je n'ai pas starté, donc c'est pas grâce à lui.
Non, c'est même pas grâce à lui. Donc ouais, Puka Nacua, gros volume, un style de jeu... qui est pas forcément le même que Cup, mais qui apparemment peut permettre de faire des choses similaires que Cup. Van Jefferson, qui a été un petit peu décevant, lui, avec un gros drop dégueulasse où il était tout seul, ce qui jamais est bon pour la confiance QB receveur, surtout quand tu as une belle opportunité comme ça. Nacua et l'autre, c'était le petit joueur dont je
n'oublie pas
le nom, Tutu Atwell, qui avait bien joué. Et ensuite en running back, ils ont fait aussi tout l'inverse de ce qu'on attendait. Kyren Williams a outsnap Cam Akers et non seulement outsnap mais outplayed. Il a été vraiment très 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 bon. Et
Outscored,
si vous Ouais, si vous êtes dans une ligue avec Zincou, alias MP, alias Cowboys France, ou je ne sais pas comment ils se cachent sur vos League Sleepers, il va falloir miser gros si vous voulez Kyren Williams.
Et tu vas voir que Sean McVay va nous. Parce que là, Akers, il a joué
Bah,
35% des
switch.
snaps. La semaine prochaine, switch,
Ça va être le
ça va être
contraire.
75% des snaps pour Cam Akers. Alors, on se calme un tout petit peu quand même hein, sur les receveurs des Rams. La semaine prochaine, c'est les Niners. Hein. Donc, c'est bien beau. Mais mettez vos 60% de fab là. Allez-y, payez cher les Pukas. Mais si c'est pour pas les starter face aux bonnes défenses, ça va être compliqué après quand même. Quand Cup va revenir, s'il revient.
Non mais quel tueur de hype, nous on était super contents pour un rookie, et là t'as niqué toute l'ambiance.
Bah, je suis désolé, mais la
Il joue
week 2,
contre qui, Week
c'était
3?
ma mission.
Week 3 et 4?
La week 2, c'était ma mission du soir. Et là,
Non mais
tu
on
m'as
va y
éclairé.
passer, on va y arriver. Ah, at Cincinnati et at Indianapolis, Week 3 et 4.
Ouais.
Bon, ouais,
Bon, Indianapolis,
ok,
ça va,
bon.
mais week 4, Cup, il peut être revenu. Hein. Ah non, c'est hier, donc c'est forcément
Non,
week
Week
5.
5 il peut
Week
revenir. Ouais.
5, ouais, pardon.
Et puis Week 5 c'est Philly, donc c'est pas forcément mieux.
Aïe, aïe, aïe.
Eh ben, sur ces belles paroles, justement, parlons très rapidement et ensuite on passera au preview de Week 2. Quelle somme mettre sur ce genre de joueur Week 1, sachant qu'en général, on a 100 dollars de free agent auction budget. Et là, bon, c'est un peu petit, malheureusement, désolé. Mais en fait, j'ai utilisé la fonction de sleeper que je trouve très intéressante, qui est les trends, de voir qui est trending up et qui est trending down avec le maximum, le nombre d'ajouts et de drop quoi, dans toutes les ligues sleeper. Donc là, on peut voir par exemple bah, les 7 semaines, si on se base là-dessus, les joueurs les plus populaires et donc théoriquement ceux sur lesquels mettre le plus d'argent, si vous les voulez, seraient Puka Nacua, Justice Hill, Kyren Williams, Kelly, etc. Enfin, alors, ce n'est pas forcément ceux sur qui ils mettent le plus d'argent parce que s'il y a un joueur qui est, par exemple, Alger, on disait, il n'est probablement pas dispo dans un milliard de ligues. Et
Coûte
donc,
trop
c'est pour
cher.
ça qu'il est ajouté dans un peu moins. Voilà.
Voilà.
Mais quand même, c'est un bon guide et on retrouve, bah là, on retrouve un peu tous les noms dont on a parlé dans ce podcast. Franz, quand tu as 100
Oui.
dollars de budget et que tu perds Aaron Rodgers et que tu as besoin d'un QB, enfin, je sais pas si tu as besoin d'un QB ou pas, mais si t'as, admettons que c'est la super flex et que tu es vraiment mort si tu n'as pas de QB et que tu as 3 QB qui sont dispo sur le. Qu'est-ce que tu fais? Zach Wilson, par exemple, est-ce que tu mets de l'argent dessus? Sans considérer qu'ils s'arrêtent de jouer parce qu'ils font venir un autre gars. Disons, Zach Wilson, c'est le nouveau starter. C'est quoi tes stratégies en général pour le fab et est-ce que tu es agressif tôt? Est-ce que tu gardes de l'argent pour plus tard, etc. Qu'est-ce que tu
Alors, sur une position hyper stratégique, je vais être agressif.
fais?
Bien entendu, ça va dépendre de la liste. Parce que des quarterbacks, potentiellement, si la ligue est un peu. Il y a pas mal d'équipes, bah, naturellement, il va pas rester beaucoup de quarterbacks titulaires dans les agents libres. Et donc, du coup, bah, s'il reste que des bouses, bah, je vais vouloir streamer. Donc, je vais pas mettre beaucoup d'argent et je vais essayer de streamer par rapport au match-up avec ces bouses-là. Voire même essayer de prendre deux bouses. Et pas de Jamel, hein. De prendre deux bouses et de me dire, tiens, je vais alterner en fonction des match-up. Donc, pour le quarterback, c'est un peu compliqué. Tu as démarré avec Aaron Rodgers, c'est difficile. En revanche, pour un skill player du type receveur, running back, là, si je vois qu'il y a un potentiel league winner, et là, il y en a un, moi, que j'aime beaucoup, qui est en bas de la liste à gauche, c'est Rashid Shaheed, typiquement.
Ouais.
Bah, un Rashid Shaheed. Je me dis, tout le monde ne va pas forcément se battre sur lui, donc je vais mettre une somme raisonnable. Je préfère mettre une somme raisonnable sur un joueur qui est un peu plus bas dans la liste que de défoncer mon Fab Money Week 1 sur le joueur le plus haut. Voilà mon type de stratégie.
Ok. Ma petite, est-ce que t'es pareil?
Non,
Je sais qu'on en parle chaque année, mais.
Moi, c'est du vrai argent, donc je mets un balle sur Puka
Non, mais
Nacua et
toi, le
c'est tout.
problème, Aptine, je vais te dire quel est ton problème. Tu draftes trop bien. Chaque année, tu te retrouves week 1, 2 et 3, et tu tapes 180 points. Et tu es en mode, mais pourquoi est-ce que je mettrais de la thune sur des mecs, je ne sais même pas qui c'est. Kyren Williams, Justice Hill, un RB3, etc. Et
Il n'a
donc,
pas de blessure à
tu te
petit nuit, c'est incroyable.
Ouais, c'est ça, je sais pas comment il se débrouille.
Il a des bleus.
Et du coup, il a plein de thunes à dépenser, week 6, au 7, quand on est tous en galère avec nos bye week et tout. Et lui, ah ouais, ok, 7 dollars sur un mec qui joue, ok, bah vas-y.
Non, mais plus sérieusement, en fait, tu mets un gros nom, par exemple, quand tu sais que tu as un deuxième running qui est bon et que le premier se blesse. Mais aujourd'hui, moi, dans la liste, par exemple, là, que tu montres aujourd'hui, je vois pas et quel prix tu peux mettre. Les gros quarterbacks sont pris. Il n'y a personne qui va les jeter sur Zach Wilson, à part celui qui avait peut-être Aaron Rodgers. Pour moi, là, dans les noms, je me dis peut-être Joshua Kelly, si tu n'as pas de profondeur, c'est un mec que tu dois avoir. Là, je pense que dans beaucoup de ligues, il n'est peut-être pas disponible déjà. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Après, c'est par rapport à ton besoin. Tu vois, moi, là, dans une ligue où j'ai pas trop compris, je crois, moi, je me suis retrouvé en autopic et du coup, j'ai pas pris un QB au moment où il y avait le rush QB dans une super flex. Je crois que mon QB1, c'est un mec, une galère. Et du coup, là, dès que je peux prendre un QB, je mettrai beaucoup de mon fab. Je mettrai peut-être 20-30% de mon fab d'un coup pour un QB qui je starterai sûrement pas toutes les weeks. Donc, c'est par rapport à l'effectif que vous avez. Ouais. Est agressif au bon moment et par rapport à l'effectif que vraiment en fait pour moi c'est plus l'effectif que vous avez qui fait que est-ce qu'il faut être agressif ou pas quoi. Ça sert à rien de mourir en fin de saison avec les 100 dollars, mais c'est faut mettre au bon moment. Et là pour moi aujourd'hui, enfin là tout de suite, j'arrive pas à me dire je vais mettre 5 enfin plus de 5 dollars sur un seul nom que je vois aujourd'hui à l'écran.
Et j'ai une question pour toi Aptine, si je me permets, pour ceux qui ont K-Makers, est-ce que mettre 15-20% de son Fab Money sur Joshua Kelly, ça s'entend?
Joshua Kelly ou Karen Williams?
Pardon, le K-Maker, c'est vrai? Ouais.
Pardon, Karen Williams.
Ouais, oui.
Voilà.
Mais, ça, c'est un casse-tête que tu vas avoir toutes les semaines. Parce que là, en fait, tu vois, il y a plusieurs coachs, Belichick, McVay, ils emmerdent la fantasy et en gros c'est par rapport à peut-être à son mood ou à des jeux qui que seul lui on va dire veut lancer. Donc en fait oui, dans l'esprit, après je pense que les Rams c'est pas le bon exemple.
Ou à starter les deux?
Non.
Ouais, non.
Là je pourrais, non. Là
c'est Atlanta, je veux bien. Détroit, je veux bien, mais les Rams, starter deux running back des Rams, j'aurais du mal.
Là, okay. Pour moi, il n'y en a aucun qui est startable avant qu'on commence à avoir une petite traîne, tu vois. J'entends deux semaines, minimum deux semaines, peut-être trois. Là, c'est un peu compliqué de se dire, ok. Je pense quand même que K-Makers va être réutilisé, mais pour moi, il va tomber dans un truc difficilement startable s'il ne fait pas un putain de score quand il a beaucoup de snaps.
Après, il y a un truc qu'on oublie sur la Fab Money, c'est que c'est intéressant de également faire payer les autres. Et faire en sorte que vos adversaires, eux, mettent trop d'argent et que j'ai l'impression
que... Toi, t'es méchant, toi.
J'ai l'impression un stratège, enfin un stratège.
Il veut pas vous le dire, mais en fait, il fait ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'il veut pas dépenser week 1, 2, 3, c'est qu'en fait, vous allez dépenser toute votre thune. Et puis lui, week 6, il a encore ses 100 dollars et il vous...
Ça, c'est vrai. Et je m'en souviens parce qu'à un moment, je jouais contre Marc. Il avait perdu son tight end et je partais mettre un peu plus que ce qu'il avait pour bloquer le tight end disponible.
Je me fais bully.
Mais non, après, ce que je veux dire, c'est un peu le jeu. Mais bon, après, comme je dis, si vous avez une équipe et dès que là, vous êtes à 0-1, vous avez perdu des joueurs, allez mettre de l'argent.
Mais n'hésitez pas. Et là, je pense qu'il n'y a pas de candidat cette année. Parce qu'il n'y a pas eu quand même d'énormes surprises. Et puis là, les joueurs qu'on a dit, Nakua, Karen Williams, Kenny Gainwell, etc. C'est des bons joueurs, mais je ne pense pas que ce soit des joueurs absolument pour toute la saison qui vont exploser. C'est pas genre, on s'est complètement planté. Marvin Mims, en fait, il est WR1, il a eu 20, tu vois. Non, c'est pas vraiment ça. Et donc, il n'y a pas besoin d'exploser le budget. Je pense qu'il n'y a aucun joueur ici où ça vaut le coup de mettre plus que 15 ou maximum 20% de son budget week 1, même si vous êtes en panique. Mais il y a des semaines, surtout tôt dans la saison, où justement, il ne faut pas hésiter non plus. Ce n'est pas le cas, encore une fois, je l'ai dit cette année, ce n'est pas le cas. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura. Mais imagine Aaron Jones se blesse. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple parce que Dylan, il ne sera pas sur le waiver, mais je ne sais pas, il faudrait trouver un backup. Genre Rashad White se blesse et tu as Sean Tucker ou un truc comme ça. Enfin, des mecs où tu te dis, putain, ça y est, lui, il va jouer et il va jouer toute l'année, tu vois. Ça peut valoir le coup d'aller, même week 1, foutre 50% de son fab si tu veux absolument un running back que personne n'avait, quoi. Après, l'autre truc, le seul truc dont on n'a pas parlé, tu peux essayer de stash pour les semaines suivantes des mecs qui vont exploser, tu vois. Si tu as un peu de place sur ton banc, c'est difficile à faire en début de saison, mais... un peu plus tard, ça vaut le coup, quand ça devient gratuit. Donc, après que le waiver soit passé, et que c'est gratuit, n'hésitez pas éventuellement à un joueur ou deux.
J'ai fait ça
Parfois, il
avec
y a
Sean
des mecs
Tucker, j'en
qui.
parlais justement. Parce que Sean
Ouais.
Tucker, Rashad White, il est nul. Donc Sean Tucker, c'est un bon pick en FA.
C'est
Et
ça. Et.
peut-être. Vas-y, pardon.
Non, non, j'allais dire. Y a... Mais du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire. Que. Donc, ouais, vas-y, un petit.
En fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce n'est pas un jeu sur l'année, mais c'est weekly. C'est qu'en gros, tu joues
Ouais,
un mec
il
toutes les
faut
semaines,
gagner
il faut que
toutes les
tu
semaines.
gagnes. Et en fait, par exemple, là, le cas de Pukanakwa, pour moi, il est révélateur de s'il avait un meilleur calendrier, enfin, à donner les défenses en face, c'est un peu compliqué, mais si c'était défense assez open, tu es obligé de mettre 15, même un 15 $ pour t'assurer d'avoir, on va dire, le plus de chances possible et de dire, je vais starter sur les 3-4 prochaines semaines et je vais me donner un edge par rapport à la personne en face. C'est par rapport à qui vous jouez, c'est pour ça un moment, peut-être que vous n'allez pas mettre de l'argent dessus, mais qu'un joueur qui a un super match-up, vous allez le chercher sur le waiver.
Regardez les calendriers, tout à fait.
Eh ben, puisqu'on
Plus
parle de
important.
calendrier, c'est une très bonne transition.
Mais on devait pas
Puisqu'on
parler du
voit.
backcourt des Ravens? Ou c'est encore un truc après?
Ah, bah.
Non, non, mais le truc, c'était de dire que de toute façon, Gus Edwards et Justice Hill, le problème, c'est que potentiellement, tu vas mettre de l'argent sur l'un, et puis c'est l'autre qui va starter, c'est l'autre qui va avoir les
Ouais.
carries. Donc c'est hyper compliqué d'avoir l'un ou l'autre. Et en fait, non, je blaguais avec toi parce que. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Melvin Gordon qui est dans la practice squad, si je ne me trompe pas, qui est retourné dans la practice squad. Et donc du coup, que potentiellement, bah, c'est lui qui va avoir des carries.
Bah, il a été promu de Practice Squad, je crois.
Voilà. Et donc, sauf qu'il y a toujours Fournette et Kareem Hunt. Et tout le monde parle de
Ouais.
Fournette, mais tout le monde oublie Kareem Hunt. Moi, je trouve ça incroyable que Kareem Hunt n'ait toujours pas une équipe. Et
Incroyable.
moi,
C'est chez
Kareem
nous.
Hunt...
Pourquoi pourquoi il a pas une équipe? Il a fait des visites et tout, c'est quand même étonnant.
C'est
Est-ce
quand
que
même étonnant. Et je l'aurais tellement bien vu aux Ravens, Kareem Hunt.
Ouais.
Et donc voilà pourquoi j'ai un peu sursauté quand t'as dit Kareem Hunt, parce que t'es la première personne que j'entends le dire à part dans ma tête. Donc voilà, c'est pour
Ah
ça.
non, mais en fait moi c'était une évidence. Tout à l'heure je me suis dit
Ah, une évidence.
qu'est-ce qu'on va nous faire, on revient nous faire chier avec des Justice Hill et l'autre. Vas-y, t'as des gars comme Kareem Hunt qui n'ont pas d'équipe et en fait moi jusqu'à preuve du contraire c'est un RB1 dans toutes les équipes.
Mais
Donc
peut-être qu'il a vieilli, le pauvre, hein, et que ses hanches, elles grincent, hein, j'en sais rien.
peut-être. Après on a un Fournette, on l'a vu l'année dernière. Enfin pour moi Fournette il reste bien meilleur que Melvin Gordon qui a pas sa place dans un roster. Je suis désolé.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il a mangé trop de McDo, Fournette, ça, je pense, et là, son
C'est des mecs
poids.
NFL, tu leur donnes 2 semaines et tout d'un coup, il y a des mecs qui reviennent
Ils
fit.
reviennent, c'est
James
vrai.
Harden, on l'a bien vu, hein, quand vous voulez partir de Philly, il arrivait, non pas de Philly, de Brooklyn, il est arrivé obèse et son premier jour, il a starté, il était fit. Donc
Ouais.
ça, sur ça, je m'en fais pas trop.
Du coup, le calendrier, Marc.
Ouais, bah non, bah calendrier pour Week 2. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé sur les weeks d'après quel est le meilleur calendrier à cibler, mais encore une fois, je trouve que ça, c'est un peu. Ça,
C'est
les
dur un
choses vont
peu.
tellement vite en NFL qu'à chaque fois qu'on regarde, ouais, qui a le meilleur calendrier des playoffs, putain, mais les playoffs, c'est dans 3 mois, on n'en sait rien en fait. Déjà là, avec la
Généralement,
week
quand
1,
tu
on a
regardes les
vu.
calendriers, que ce soit incubé en défense, tu regardes peut-être sur 2-3 semaines, pas plus, parce qu'on parle de
Ouais,
stream.
c'est ça, exactement ce que j'allais dire. Tu regardes 2-3 semaines et pas plus.
comme,
Par
c'est
exemple, tu
comme, c'est comme
vois.
quand on parle des bails pendant la draft. Ah oui, prenez pas des joueurs du
Ah
même
ouais, ça.
bail. Il y a
Exactement.
encore un célèbre podcast qu'on a parlé il y a pas longtemps en donnant comme conseil de ne pas prendre des joueurs du même bail. Mais c'est n'importe quoi.
Laurent.
Si j'ai deux receveurs qui sont bail 13, week 13, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Il y a 12 semaines entre les deux, il va se passer des milliards de choses. Et au final, je vais pas me
Ouais,
bloquer
tu peux
un
trader, il y en a un qui peut se
receveur.
blesser.
Bien sûr.
Et puis, ça veut dire que pendant 12 semaines, tu as tes deux meilleurs receveurs, tu vois.
Mais oui, c'est
Donc,
ridicule.
ça se trouve que tu n'en auras
Je
pas besoin dans
suis
Week
prêt
1.
à perdre une semaine sur les. Si je perdais qu'une
Ouais.
semaine, moi, à chaque ligue, je
Après,
serais heureux.
si tu es à la draft, par exemple, et que tu hésites entre deux joueurs qui sont pour toi identiques, deux receveurs, c'est la même stratégie, c'est le même truc, et qu'il y en a un des deux qui a la même bye que ton WR1, ouais, je veux bien que tu l'utilises en tiebreaker. Mais ne détermine pas ta stratégie de draft par rapport à la bye week.
Exactement.
Calendrier week 2, France. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent?
Alors, moi, j'ai retenu quatre affiches qui sont particulièrement intéressantes pour la fantasy. La première, c'est les Falcons contre les Packers. Pourquoi? Il y a deux mauvaises défenses contre la course. Enfin, il y a deux défenses qui se sont fait un peu marcher dessus contre la course. Et je pense qu'on peut, dans ce genre de. On en parlait tout à l'heure, hein, mais dans ce genre de match-up. On peut starter Bijan et Algier typiquement contre une défense comme les Packers. Les Falcons, ils ont pris plus de 150 yards par les Panthers à la course. Moi, je suis un peu excité de voir ce que va donner Aaron Jones et J.D. Dillon face aux Falcons. Aaron Jones, il a ouvert les Bears à lui tout seul. C'est super intéressant à voir. Il y a eu une seule target pour Drake London, on en a parlé en week 1 pour les Falcons. Je pense que le conseil, c'est quand même de peut-être potentiellement bench London, qui aura quand même Jaire Alexander en cover sur lui. Mais sinon, Romeo Doubs, qui était en snap count, a quand même bien répondu présent. Donc lui, il peut être startable contre les Falcons. J'ai envie de voir Musgraves qui va donner. J'ai envie de voir Kyle Pitts. J'ai envie de voir le petit Reed qui peut être pris en waiver au cas où des Packers qui peut faire une surprise. Et puis moi, je suis désolé, mais en l'état, Jordan Love est peut-être startable dans ce match-up. Donc ça me donne énormément d'arguments quand même pour me dire que c'est un match-up qui, côté fantasy, est hyper intéressant à regarder.
Ouais. Bravo France, parce que c'était jamais une affiche que moi j'allais mettre en avant. Je trouve ça... Non, et pour le coup, je trouve ça
super bon. Ouais.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce match-up? Mais en tout cas.
Non, mais t'as dit 4 matchs et là, t'en as
Non, mais bah juste. juste à suivre la blessure d'Aaron Jones, du coup, parce qu'effectivement, s'il ne peut pas jouer contre Atlanta, bah, Dillon sera potentiellement, même s'il a vachement déçu l'année dernière, potentiellement un must-start sans Aaron Jones.
Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Chiefs contre Jaguars. Ça tombe bien, parce que c'est un match qui, d'un point de vue NFL, est ouf à regarder, et d'un point de vue fantasy également. Je crois qu'on a tous crisé devant le Mahomes et ses receveurs. Mais ça sent le bounce back quand même pour Mahomes et l'équipe de receveurs des Chiefs face à des Jaguars quand même qui ont pris plus de 200 yards d'un mauvais passeur QB rookie. Donc un Mahomes peut peut-être clairement quand même les étriper. Surtout si Kelsey revient, on va peut-être retrouver les Chiefs. Pacheco, attention.
Pardon. Oui. Non, je croyais que t'allais finir, mais je te laisse finir et après, si t'as pas répondu, je te pose la question.
Non, dans les trucs qui sont intéressants, Pacheco, pour moi, descend ou reste en flex, ça dépend après de votre équipe. Il n'y a pas grand-chose d'autre. J'ai été hyper surpris de ne pas voir McKinnon à la course en week 1. Et puis, Clyde Edwards-Helaire n'est pas startable en l'état contre les Chiefs. Ridley est un stud, c'est votre potentiellement league winner. On a vraiment envie de voir si une équipe comme les Chiefs peut stopper ça. Et on en a parlé de Chris Kirk tout à l'heure. Et puis, d'un point de vue tight end.
Zay Jones, du coup, et lui, pour le coup, sur le terrain tout le temps. Donc, ça peut être un mec
sur waiver aussi. WR3. Ouais. Il peut devenir WR3. Et puis, c'est un match-up qui a également deux tight ends hyper intéressants à regarder, qui sont Engram et Laporta. Donc, d'un point de vue fantasy, c'est quand même un match-up qui est hyper cool.
Ouais, donc la question que j'allais te poser rapide sur Kansas City, les receveurs ont énormément déçu la semaine dernière. Par exemple, Sky Moore, Kadarius Toney, est-ce que vous les droppez si vous les avez? Est-ce que vous les conservez? Et inversement, Rashee Rice a été un peu le seul bon côté, mais bon, moi je suis pas trop d'accord parce qu'il a juste marqué un touchdown. Mais en gros, voilà, la question c'est est-ce que vous avez confiance dans les receveurs des Chiefs ou c'était leur occasion de briller et ils ont foiré et donc vous leur en voulez pas.
Moi, Toney, je l'ai jamais drafté, je l'aurais jamais drafté, donc
t'es pas pour voilà. De toute façon.
Sky Moore, je garde. Sky Moore, je garde et pour moi, ça va revenir.
Ouais, moi, j'étais quand même très inquiet par son volume. Il était sur le terrain assez régulièrement. Il a eu que 3 targets de mémoire, j'ai pas sous les yeux. Toney, ce qui était bien, c'est que justement, il était beaucoup ciblé, mais bon, il a tellement fait de la merde que faudra voir ce que ça fait. Mais
c'était un match particulier.
Ouais.
Optin, t'en penses quoi?
T'as pas l'air de... Non. Globalement, j'étais d'accord, mais je suis en train de passer à Toney et je m'attends à un match bounce back, mais après, c'est plus foot en fantasy. Je pense qu'il va peut-être faire un score à un moment. On va se poser la question. On va reparler dans un prochain podcast. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on ne le prend pas? Ce ne sera jamais une option viable, semaine, enfin, week in, week out, de starter. Mais je m'attends quand même à un bounce back parce que tu es obligé de montrer un autre visage que celui que tu as montré sur, dans le match contre les Lions.
Ouais, et pour ceux, par exemple, qui avaient Dobbins ou d'autres running backs un peu blessés, Bixby, s'il est disponible, évidemment, c'est intéressant d'aller le chercher pour les Jaguars. Le troisième match que j'ai trouvé hyper cool, et alors là, c'est pas forcément en NFL, c'est vraiment fantasy pure, c'est les Colts contre les Texans.
Et alors, oui, ça, j'adore ce genre de match.
Mais oui, mais en fantasy, c'est génial.
Grave.
Pour moi, tu as Richardson, Pittman, Granson, Damien Pierce, Nico Collins et Robert Woods qui peuvent être startables dans ce match.
Oh non, non, t'as les Avengers de la nullité, quoi. Vas-y, continue.
Et, et la fantasy, c'est ça. Et là, je trouve que c'est un match-up qui est juste hyper intéressant pour la vraie stratégie weekly. On n'a pas arrêté de dire que la fantasy, c'était weekly, que c'était pas sur une saison. Bah là, typiquement, Robert Woods, il a eu plus de 10 targets la semaine dernière. Je peux comprendre que face aux Texans, que face aux Colts, tu t'intéresses à le starter, ou en tout cas en receveur 2 ou en flex. Je pourrais le comprendre. Granson, Alexandre en avait parlé, c'est un tight end si vous êtes en galère tight end, peut être hyper intéressant pour la suite. Dion Jackson est nul, mais surveillez Zach Moss. Donc voilà aussi le deuxième truc. Et puis j'avais été un peu déçu de l'impact de Dalton Schultz en week 1. J'attends de voir ce que ça va donner en week 2 face à des Colts qui sont quand même perméables.
Agreed. Et le dernier?
Et le petit dernier, c'est les Lions contre les Seahawks. J'ai envie de voir ce que va donner le volume de Gibbs. Bien sûr, mais surtout j'ai envie de voir si c'était simplement un mauvais début de saison pour les Seahawks, qui a certainement une des équipes les plus complètes offensivement qui soit. J'ai envie de voir si Geno Smith, c'est toujours Geno Smith de l'année dernière, la triplette DK Metcalf, JSN, Tyler Lockett, Kenneth Walker, Zach Charbonnet. Enfin, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre dans ce match. Et moi, ça m'intéresse particulièrement. Et puis les Lions, est-ce qu'ils continuent sur leur lancée? Est-ce qu'ils font toujours jouer Montgomery autant et Amon-Ra St. Brown, qui est peut-être également alors pas un league winner, parce que je pense qu'il a été pris quand même sacrément haut de votre draft, certainement deuxième, troisième tour. Mais les Lions, c'est une équipe hyper cool pour la fantasy. Est-ce que vous voyez, vous, un autre match-up qui est intéressant à la point de vue fantasy?
Moi, je kiffe faire des podcasts avec Franz. Il dit que la vérité, t'as rien à ajouter. C'est du travail facile et t'es payé à la fin de la journée.
Moi, je... un peu moins pour fantasy, mais j'ai envie de revoir les Rams jouer pour voir si ça confirme un peu. Et puis contre San Francisco, c'est toujours un beau match. La rivalité entre les deux coachs, etc. Ça peut être sympa. Évidemment, je veux voir si New York est capable de rebondir contre Arizona, parce que si c'est pas le cas, la saison va être affreuse, sachant qu'on a beaucoup de matchs à l'extérieur après ça, et que ça va être. Et puis pareil pour Jets Dallas, du coup, voir un peu comment ils rebondissent après cette terrible nouvelle de la blessure de Rodgers. J'ai été très, on en a pas parlé du tout, mais peut-être moi je finirai là-dessus. J'ai été très content et rassuré par la prestation de Brice Hall hier.
Ah oui.
Je l'ai vu assez explosif. Je l'ai vu être très très malin dans ses déplacements. Et seul truc qui lui manquait, c'était la vitesse de pointe sur un breakaway run. Ça va revenir avec l'entraînement et le conditionnement. Donc très très content de son retour.
Mais tu vois, Marc, Jets Cowboys, moi je me le suis noté comme étant le pire match de fantasy cette semaine. Qu'est-ce que tu fais de Garrett Wilson face à la meilleure défense de la ligue? avec un quarterback qui a les cheveux c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Dalvin Cook, t'en fais quoi? Tu fais quoi, Dalvin Cook? Est-ce que tu startes? Ouais. Enfin, Garrett Wilson, t'es obligé de le starter parce que tu l'as drafté super tôt dans la.
Hey, Franck, cette nuit, il va aller au lit, il aura tellement de questions.
Ouais. Ouais, c'est ça. Un enfer. J'ai cette vision des points d'interrogation autour de sa tête.
Ah non, mais les Jets, là, la blessure de Rodgers, elle a. Enfin, désolé, mais elle a baisé tellement de stratégies de draft. Oups.
Non, c'était juste Hopkins qui était un peu en retard. Donc ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est quand même un match que j'ai envie de voir parce que c'est juste intéressant, quoi. Et oui, Saints Carolina, vous jouez tous les deux Monday Night, c'est marrant ça. Carolina et Pittsburgh.
Ouais.
Qu'est-ce que vous attendez de vos matchs?
Vas-y, la victoire. Hein.
Tous les deux blasés.
Non, mais de toute façon, moi, je suis assez confiant contre Cleveland. Je pense qu'on va bounce back et Cleveland, c'est un peu nos. Je sais pas si on peut dire pute, mais vas-y, c'est parti. Mais voilà. Non, moi, c'est plus Baltimore, Cincinnati. J'attends que les deux offenses jouent au niveau auquel on les attend. Et moi, c'est peut-être le match que je vais regarder. Je vais le mettre à part sur un écran. Si je ne sais pas comment ça s'appelle, DAZN, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Si ça me le permet, si ça ne déconne pas cette semaine. C'est peut-être le match que je vais mettre en fond. Ouais.
Moi, de mon côté, je m'attends à une bonne grosse déculottée. Non pas que je trouve que les Saints soient si forts. Pour moi, ils sont un peu surestimés dans la division. Mais on a Jesse Horn, notre cornerback, qui est blessé encore et toujours. Et on va se faire manger par Olave, Shahid et Michael Thomas, qui revient un petit peu. Donc, ça va être un enfer. Et puis en plus, comme on a une mauvaise défense contre la course, je pense que Jamal Williams va se donner à cœur joie dans la ligne sur les 5 yards.
C'était vraiment moche les Saints cette semaine, week-end dernier.
Ouais, ils ont galéré.
C'était vraiment pas beau. Hein. Ils gagnent de 1 point face à un mec qui envoie 3-4 inter, ou je ne sais plus exactement ce qu'il a fait à lui. Mais franchement.
Heureusement qu'ils ont un mauvais coach, Dennis Allen, mais moi, j'ai du mal à y croire là quand même.
Le bounce back chez vous, moi j'y crois.
Je veux voir Bryce Young comment il progresse en fait, c'est ça qui m'intéresse plus qu'autre chose. Et je veux qu'on donne le contrat à Brian Burns.
Parfait, et cool, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Alors on aura probablement une autre émission cette semaine, soit demain, soit jeudi. Pour parler des jeux, concours, pronostics, etc., animés par Lucho, et dans laquelle ils parleront aussi peut-être d'autres choses, soit un start and sit, soit un autre topic dont on va discuter. Donc, gardez l'œil sur Twitter, etc., sur YouTube, Twitch pour la prochaine émission. Dimanche dernier, on avait fait aussi, juste avant les matchs, à peu près une heure et demie avant, un petit Twitter Space, X Space, je ne sais pas comment ça s'appelle ces jours-ci, qui est sympa. Et dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous voulez qu'on continue. Je pense qu'on va continuer juste pour parler une heure et demie avant les matchs, des dernières blessures, des dernières infos, donner quelques tips de dernière minute. Mais n'hésitez pas, hein, on fait ça pour vous. Et donc, si vous avez des trucs que vous voulez entendre, des trucs que vous voulez voir, des trucs dont on voulait qu'on parle, dites-le nous. Hein, donnez tout le feedback que vous voulez et on s'efforcera au moins de l'écouter. Non, je déconne. On est à votre service, donc on est là pour ça. Par exemple, Zinkou qui nous demande pourquoi on le fait sur Twitter, parce que à la base, sur Twitter, l'avantage c'est qu'on pourrait faire parler des gens s'ils veulent poser des questions eux-mêmes. Mais si personne ne le fait, du coup, ça n'a pas d'intérêt de le faire sur Twitter. Donc voilà, ça c'est le genre de truc dont on va tâtonner un petit peu. On fera au mieux. Si on le fait sur Twitch, c'est très bien aussi. Là-dessus, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait au programme pour aujourd'hui. on va parler du trophée FB et des jeux demain ou vendredi ou jeudi. Et puis, week 2 va arriver avant même qu'on le sache. Hein. C'est que c'est parti. On est dans le vif du sujet. Ça va s'enchaîner.
Attention à vos waivers avant demain.
Yes, waivers cette nuit. Ça, c'est toujours le problème week 1 quand tu as. 15 ou 20 ligues, le waiver week 1, c'est un bordel. Allez les gars, merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux aujourd'hui, il y avait plein de commentaires, c'était super, super agréable de faire l'émission avec vous, Aptin et Franz, et avec tout le monde qui nous a écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.
Merci tout le monde. Ciao.
Peace.